dimanche de l'Église persécutée sur le thème de croire à contre-courant. La réflexion à laquelle Porte Ouverte nous invite pour ce dimanche matin est basée sur les chapitres 2, 3 et 4 du livre des Actes. Alors on va pas lire ces trois chapitres, hein. On aurait intérêt à le faire évidemment, et je ne peux que vous encourager à faire ces lectures. Après la résurrection de Jésus-Christ et son élévation au ciel, les disciples vont attendre la venue du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit leur sera donné à Jérusalem au moment de la Pentecôte. Et on connaît ce discours de Pierre, ce don de parler en langue qui est donné, ce discours de Pierre. Et on sait que le texte nous rapporte qu'à l'issue de ce discours, les auditeurs ont été profondément touchés. Et Pierre les encourage à changer de conduite et à croire au Seigneur Jésus. Il le fait avec instance, avec insistance, et on sait qu'il y a un grand nombre de personnes qui vont se convertir. Le verset 41 du chapitre 2 nous dit « Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie et avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Et un jour, quelque chose a été différent. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3h de l'après-midi. On était juste en train d'y porter un infirme. C'est un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple près de la porte appelée la Belle Porte pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Les deux apôtres fixèrent les yeux sur lui. « Regarde-nous, » lui dit Pierre. L'infirme les regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et en même temps, il le prit par la main droite et le fit lever. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple. Il marchait, il sautait de joie et louait Dieu. Tout le monde le vit, ainsi marchait et louait Dieu. On le reconnaissait. C'était bien lui qui était assis à mendier près de la belle porte du temple. En voyant ce qui venait de lui arriver, les gens étaient remplis de stupeur. Et quant à lui, il ne quittait plus Pierre et Jean. Tout le peuple accourut et se rassembla autour d'eux dans la cour du temple, sous le portique de Salomon, et ils étaient stupéfaits. Quand Pierre vit cela, il dit à la foule, et il prononce là son deuxième discours. Et pendant qu'il est en train de faire ce discours au début du chapitre 4, survinrent des prêtres accompagnés des chefs de la police du temple et des membres du parti des Sadducéens. Ils étaient irrités de voir les apôtres enseigner le peuple et leur annoncer que puisque Jésus était ressuscité, les morts ressuscitent eux aussi. Ils les arrêtèrent donc, et comme il se faisait déjà tard, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Le lendemain, alors il y a un grand nombre de personnes qui crurent, Le lendemain, les chefs des Juifs, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi se réunirent à Jérusalem. Il y avait là en particulier Anne, le grand prophète, Caïphe, Jean, Alexandre et tous les membres de la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean, les placèrent au milieu de leur assemblée et les interrogèrent pour savoir au nom de qui ils faisaient cela. Et là, Pierre donne les explications. Alors, les membres du grand conseil étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre au verset 13. Et de Jean, car ils rendaient compte que c'était des gens simples et sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils les voyaient debout à côté de l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à répondre. Alors, ils leur ordonnèrent de sortir de la salle, ils délibèrent. Et quand ils les firent rappeler au verset 18, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez-en vous-même. Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Quant à nous, nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. » Après leur avoir fait de nouvelles menaces, ils les relâchèrent. En effet, ils n'avaient pas trouvé le moyen de les punir, parce que tout le peuple louait Dieu pour ce qui venait d'arriver. L'homme qui avait été miraculeusement guéri était âgé de plus de 40 ans. Il retrouve l'église, il se met à prier, le lieu dans lequel ils sont se met à trembler, et puis on voit qu'il continue à annoncer la parole avec assurance et qu'un plus grand nombre de personnes encore se tournent vers le Seigneur. Voilà pour un bref résumé de ces chapitres 2, 3 et 4 du livre des Actes. Et voici le texte qui est le texte de cette journée. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Les chrétiens sont appelés à vivre ouvertement leur foi. Et cela, en dépit des attentes et des opinions des hommes, des femmes, de la société qui les entoure. Et vous savez, les difficultés, elles apparaissent souvent lorsque l'Église, elle devient visible, qu'elle prend position publiquement. C'est alors que la persécution surgit. Et c'est le récit de la toute première persécution contre le chrétien que le livre des Actes nous raconte. Quel est le contexte? Les disciples, les premiers convertis, forment une toute petite minorité à Jérusalem. Leur chef, Jésus, a été crucifié quelques mois auparavant. Au début, tout se passe très bien. Les chrétiens ne dérangent pas. Ils restent chez eux, ils se rencontrent dans les maisons. Oui, ils fréquentent bien le temple, mais de manière, passive, ils assistent à ce qui se passe dans le temple. Ils se réunissent dans leur maison, ils sont ensemble, ils ont un mode de vie différent. Ils mettent tout en commun. Ils vivent pleinement leur foi entre eux, mais ils restent au sein de leur communauté. Personne, ou presque, n'a remarqué leur présence. Ils n'ont fait aucune vague dans la société. Jusque-là, cette minorité chrétienne à Jérusalem ne menace pas l'équilibre, le statu quo. Et tant que la foi reste privée et qu'elle ne choque pas, on ne rencontre aucun problème. Persécution. Mais qu'est-ce qui la provoque? Ils manifestent leur foi dans un lieu hautement sensible. Ils manifestent leur foi dans le temple. À ce moment précis, on le voit avec la guérison de cet estropié, la foi chrétienne, elle devient publique, elle devient visible. Et cela amène trois conséquences. D'abord, les disciples touchent au statu quo religieux. Vous savez, cet homme, il était malade depuis 40 ans, et habituellement, comme ça nous est rapporté dans le texte, sa famille venait et le plaçait auprès de cette porte dite la porte belle. Les gens avaient l'habitude de le voir là. Et, il faisait l'aumône. C'était une bonne œuvre qu'on faisait quand on allait au temple. C'est un acte religieux qui est bien, n'est-ce pas? J'étais très surpris quand j'étais au Bénin, ça existait ça aussi, cet acte religieux. Hein? Et puis vous aviez un certain nombre de mendiants qui vous tendaient la main. Et j'étais très étonné que quand vous disiez aux mendiants « j'ai déjà donné », vous laissez tranquille. Parce que dans cette culture-là, ben, tu donnes une fois, il faut que chaque jour tu fasses l'aumône, hein, dans la culture musulmane, il faut que tu donnes l'aumône une fois et après tu es tranquille, tu as fait ton devoir pour ta journée. Donc quand tu dis aux mendiants « j'ai déjà donné », ils disent « bon celui-là il ne nous donnera plus, il a fait son devoir, on va aller en trouver un autre ». Acte religieux. Mais Pierre et Jean, ils font exploser cette manière de faire et ils guérissent. Je me suis dit souvent, Seigneur, si je pouvais dire à ces mendiants, je n'ai ni argent ni or, mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Quand on voit un pauvre gars qui n'a pas de jambes ou les jambes recroquevillées sous son corps et qui se déplace en marchant sur les mains, en se protégeant avec deux bouts de carton, je dis, Seigneur, comme je voudrais pouvoir dire ça. Il touche au statu quo religieux. Il dérange. Il dérange la paix sociale. Parce que la guérison, ben, elle suscite un attroupement. Pierre donne une prédication spontanée d'un seul coup dans le temple, là, il se met à prêcher. Et imaginez-vous, il y a un homme qui danse dans le temple. Qu'est-ce que vous auriez pensé si quelqu'un s'était mis à danser de joie dans l'église ce matin? Tout cela, ça se passe dans l'endroit le plus saint et le plus religieux pour les Juifs. Et c'était totalement insupportable. Ils dérangent la paix sociale. Ils accusent les Juifs d'avoir crucifié Jésus. C'est ce que Pierre leur dit, vous avez fait mourir le prince de la vie. Et Pierre et Jean annoncent ces vérités dérangeantes, ces vérités qu'ils ne veulent pas entendre. Et enfin, autre vérité qu'ils ne veulent pas entendre, la résurrection de Jésus-Christ. Vous vous souvenez, quand Jésus est ressuscité, ils ont payé les gardes pour dire qu'ils sont assoupis, hein, ils ont passé une bonne nuit près du tombeau, et pendant qu'ils dormaient bien, les disciples sont venus voler le corps. Mais les disciples disent, alors le Seigneur vous accordera des temps de repos et il vous enverra celui qu'il vous a destiné comme Messie, Jésus, acte 3, 23. Écoutons le témoignage de Michael Yat, emprisonné au Soudan parce que sa foi était trop visible. De passage à Khartoum, la capitale du Soudan. Le pasteur Michael Yat a été emprisonné pendant 6 mois pour avoir prêché une seule fois. L'église dans laquelle il a parlé avait été partiellement détruite par les autorités soudanaises. Tout comme Pierre et Jean, Michael a dérangé la paix sociale en dénonçant la vente controversée des terres et des biens de l'église, ainsi que le mauvais traitement que subissent les chrétiens au Soudan. Inculpé et risquant la peine de mort, il se retrouve en cellule avec 17 autres détenus. Là, il annonce la résurrection de Jésus. C'était une occasion rêvée, dit-il, pour transmettre l'évangile. Quand je leur ai expliqué que je risquais la peine de mort, ils m'ont dit « Mais pourquoi es-tu si joyeux s'ils veulent te tuer ?» Je leur ai parlé du Christ et du ciel. Beaucoup de condamnés ont pu entendre l'évangile. Une partie de ceux qui ont été conduits au Christ ont été plus tard exécutés. C'est une consolation de savoir qu'ils sont allés auprès de Jésus. Quelles sont les sources de l'opposition? Pierre et Jean sont arrêtés, et on le voit dans les textes, à la fois par les sacrificateurs, par le commandant du temple et par les sadducéens. Tandis qu'ils parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens, ils portèrent les mains sur eux. Alors pourquoi le commandant du temple les arrête-t-il? Mais parce qu'ils dérangent l'ordre public. L'Église est souvent persécutée par les dictatures qui ne supportent pas ceux qui dérangent l'ordre établi, en les remettant en cause et en ne leur obéissant pas totalement. Par exemple, en Chine, depuis la nouvelle ordonnance religieuse du 1er février 2018, destinée à a cynisé le christianisme, de nombreuses églises ont été forcées d'installer des caméras de surveillance. Et les prédicateurs choisis par le gouvernement sont contrôlés pour s'assurer que leurs sermons n'abordent pas des sujets qui contiennent des influences étrangères. Le gouvernement veut créer un christianisme adapté à la culture et au régime chinois. La plupart des chrétiens, cependant, ne se réunissent pas dans les églises enregistrées et sanctionnées par l'État, mais dans des églises clandestines. Des responsables chrétiens ont été harcelés, emprisonnés, torturés ou ont tout simplement disparu. Nous avons vu le pasteur Wang Yi qui risque 15 ans de prison en Chine pour avoir dérangé l'ordre public. Il est juriste de renom et connu par ses discours sur la liberté religieuse. Celui qui a déjà valu d'être arrêté à plusieurs reprises. Cela lui a déjà valu d'être arrêté à plusieurs reprises. En Chine, beaucoup d'églises choisissent de rester petites et discrètes. Mais le rêve du pasteur Wang Yi est que l'église chinoise soit une lumière sur une colline. Son épouse, Yang Hong, et d'autres responsables de leur église de 750 membres s'attendent à être arrêtés un jour ou l'autre. C'est ce qui s'est passé le 9 décembre 2018 à Chengdu dans la province du Sichuan. Ce dimanche soir, plus d'une centaine de fidèles ont été interpellés à l'église, à leur domicile ou dans la rue. Ils ont pour la plupart été libérés après avoir été interrogés. Wang Yi et 10 responsables sont restés en détention. Il encourt une peine de 15 ans de prison pour incitation à la subversion contre le pouvoir de l'État. Quelques semaines avant d'être arrêté, le pasteur Wang Yi a rédigé sa déclaration de désobéissance fidèle. En voici un extrait. La Bible nous dit de respecter les autorités, mais elle ne nous dit pas d'aller à l'encontre de notre conscience ou du message de l'Évangile. L'Évangile utilise donc des moyens pacifiques pour manifester sa foi et répandre l'Évangile. En tant que pasteur, ma désobéissance fait partie du mandat de l'Évangile. Le grand ordre de mission du Christ exige de nous une grande désobéissance. Le but de la désobéissance n'est pas de changer le monde, mais de témoigner d'un autre monde. Les sacrificateurs arrêtent Pierre et Jean. Pourquoi ? Parce qu'il dérange l'ordre religieux. Qui a donné à Pierre le droit de prêcher dans le temple et d'annoncer le salut en Jésus ? Qui ? Quand l'Église grandit, elle dérange l'ordre religieux. On met en avant que Jésus est le Fils de Dieu, ce qui dérange les musulmans, les bouddhistes et les hindous. Par exemple, en Iran, on estime que des centaines de milliers de musulmans se sont convertis à Jésus. En Algérie, les chrétiens ouvrent de nouvelles églises. En Inde, les nationalistes hindous ne supportent pas les conversions des chrétiens qui sortent du système des castes. Pour eux, l'Inde, elle est seulement pour les hindous. Voyez le témoignage de Mehdi Dibaj, qui a dérangé l'ordre religieux en Iran. L'Iran, c'est une république islamique, n'est-ce pas, Massoud ?
Ouais.
Où les chrétiens n'ont pas le droit de prêcher publiquement. Massoud pourra vous donner des détails. Il en vient, n'est-ce pas ? Bienvenue parmi nous. Il est interdit aux musulmans de changer de religion. Mais le pasteur Mehdi Didaj préférait obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Secrètement, il évangélisait les musulmans et beaucoup d'entre eux ont accepté Christ. Dans les années 90, Mehdi et 2 autres responsables chrétiens iraniens ont été emprisonnés pour avoir prêché aux Iraniens musulmans. La vie en prison du pasteur Didaj était dure. Un jour, les autorités l'ont isolé des autres prisonniers et l'ont mis dans une cage mesurant 1 mètre carré. Pendant plusieurs semaines, il a été comme un animal en cage. Pourtant, il ne s'est jamais plaint à Dieu et il n'a jamais remis en question la volonté de Dieu pour sa vie. Après 9 ans et demi de prison, il a finalement été libéré et il a retrouvé sa famille. Mais les fondamentalistes musulmans étaient mécontents de cette libération. Quelques mois plus tard, le corps du pasteur Didache a été découvert, poignardé. Il avait dit « Je préfère être en prison et proche de Dieu plutôt que de vivre dans un château sans Dieu. » Les Sadducéens arrêtent Pierre et Jean. Pourquoi ? Parce qu'ils contredisent le matérialisme, l'ordre idéologique. Les Sadducéens, on le voit dans le discours avec Jésus, ils ne croient pas à la vie après la mort, ils ne croient pas à la résurrection. Ce sont ceux qui s'opposent le plus au message des premiers chrétiens. Comme dans notre monde, moderne et sécularisé, ils croient que seule la vie présente ici-bas compte. Ce sont les matérialistes juifs. Mais les disciples prêchent la résurrection, la vie après la mort. Il y a plus que cette vie présente. Les Sadducéens ne supportent pas le message des disciples. Dans les pays communistes, le christianisme est mal vu. Il existe aujourd'hui dans le monde 5 pays qui perdurent sous un gouvernement communiste. La Corée du Nord, le Vietnam, le Laos, la Chine et Cuba. Ils sont tous les 5, et parfois très très bien placés, ou malheureusement bien placés, dans les premières places, dans l'index mondial de la persécution des chrétiens. À Cuba, il y a encore 20 ans de cela, être chrétien était considéré comme une maladie. Les chrétiens étaient fortement persécutés, car considérés comme des contre-révolutionnaires. On leur refusait l'accès à l'université. Beaucoup ont été arrêtés, détenus, envoyés aux travaux forcés ou même tués à cause de leur foi. Les choses ont changé aujourd'hui. On ne parle plus de persécution, mais de tolérance. Pourtant, le gouvernement maintient un certain contrôle sur l'Église. Ainsi, au printemps de cette année, 5 pasteurs ont été inquiétés par les autorités cubaines pour s'être prononcés contre un référendum sur la Constitution. Ils estimaient que certains points de la Constitution ne correspondaient pas à l'éthique chrétienne. Ils ont reçu des menaces d'arrestation. Le gouvernement considère l'acceptation de la nouvelle Constitution comme un signe de patriotisme et de soutien à la révolution cubaine. Tous ceux qui ont exprimé leur mécontentement à l'égard du nouveau projet et appelé à une protection constitutionnelle plus forte du droit à la liberté de religion ou de conviction sont considérés comme des saboteurs et des contre-révolutionnaires par le régime. Ils se retrouvent devant le tribunal. Et Pierre et Jean se retrouvent devant le même tribunal qui a fait crucifier Jésus. C'est le Sanhédrin. Ils ont dû être impressionnés, n'est-ce pas? Est-ce que eux aussi, ils allaient être crucifiés comme Jésus? Et nous devons nous souvenir, comme son frère nous l'a rapporté dans la vidéo, que l'Église est persécutée parce qu'elle suit Jésus. Et cela nous emmène dans le même conflit que Jésus a eu avec le monde. Jésus dit dans sa prière en Jean 17, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. » Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Le tribunal leur défend d'aller à contre-courant. Il leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Vous savez, le monde, c'est comme une rivière, je dirais même comme un torrent, il a une telle force, qui coule dans une seule direction. Et cette direction, c'est celle qui vise à faire taire le nom de Jésus, à réduire la foi au seul espace privé. Ne pas déranger, ne pas se convertir, ne pas enseigner la vérité au monde. Alors comment réagissent les disciples? Ils font le contraire. Ils marchent à contre-courant. Jugez, disent-ils au tribunal, s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et voici ce que déclarent les disciples Pierre et Jean en disant cela. D'abord, ils disent que leur vie doit témoigner que Dieu est leur priorité. Ils respectent la loi de leur pays, sauf quand elle contredit la loi de Dieu. Ensuite, qu'ils sont intègres pour dire la vérité et pour continuer à parler de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont vécu. Et enfin, ils sont pleinement dédiés à Dieu. Ils vivent pour lui. Et vous savez, comme dans le livre des Actes, et ça se confirme partout sur terre, la persécution n'est pas une entrave à l'évangile. Et on constate que souvent, le nombre de chrétiens augmente encore plus vite que la persécution. Les témoignages d'Amarouche et de Sadawi, qui marchent à contre-courant en Algérie. Ah, il y a une erreur. Moi, j'ai Algérie. C'est une erreur sur la diapo. Excusez l'erreur. Je ne l'ai pas vu, je l'aurais changé. C'est le PowerPoint qui est proposé par Porte Ouverte. Alors, Amarouche et Sadawi forment un jeune couple chrétien d'arrière-plan musulman. Tous deux viennent d'un village de Kabylie, une région montagneuse où l'Église connaît la croissance la plus rapide parmi la population berbère. Leur changement de religion leur a valu quelques difficultés. En effet, ils sont les seuls chrétiens de leur famille. Au travail, j'ai peur de la persécution. La pression est pratiquement quotidienne. Je suis policier et chaque matin, je me dis que c'est peut-être mon dernier jour dans cet emploi. Je dis franchement que je suis chrétien, mais je fais très bien mon travail, dit Amarouche. Sadawi a subi les pressions d'un cousin qui est très opposé à sa conversion. Aujourd'hui, Amarouche et Sadawi sont responsables de jeunesse dans leur village. On compte 60 jeunes chrétiens entre 16 et 30 ans. Ils disent « Les jeunes de notre église sont très actifs. Je me suis converti à la même année que 4 d'entre eux. Maintenant, nous sommes tous les 5 engagés dans la communauté », dit Amarouche. Ils espèrent que l'église gagnera encore en maturité dans les années à venir et que beaucoup plus d'hommes et de femmes serviront Dieu. Nous avons pour vision d'atteindre les 40 villages de notre région et d'implanter une église dans chacun d'eux. Magnifique vision, n'est-ce pas? Les Kabyles ont soif de l'évangile. Ils constatent que la foi musulmane mène à une impasse. Et ils voient le témoignage que nous, petite minorité, nous rendons. Dieu est à l'œuvre. Nous voulons enseigner comment amener les gens à devenir de vrais disciples qui tiennent bon dans leur foi. Conclusion. Il faut beaucoup de foi et de courage pour témoigner de la bonne nouvelle dans des pays comme la Corée du Nord, comme l'Afghanistan ou comme la Somalie. Alors, posons-nous en conclusion de cette prédication, de cette réflexion, quelques questions. La foi chrétienne est-elle visible au travers de ma vie? Est-elle visible au travers de la vie de notre Église? Notre foi chrétienne est-elle visible dans notre quartier? Est-elle visible dans notre ville? Première question. Notre foi en Jésus-Christ est-elle visible? Ma foi est-elle visible? Deuxième question. Quels risques courons-nous? Vincent nous l'a dit. Hein. Vous courez juste le risque qu'on se moque de vous ou qu'on vous mette un peu de côté. Hein. C'est le pire risque que vous couriez. Troisième question. Comment est-ce que nous, qui vivons dans un pays libre, on peut prier pour les chrétiens persécutés? l'idée qui nous est proposée, c'est d'essayer de nous mettre à leur place. Tout comme ce récit du livre des Actes, le témoignage de l'Église persécutée peut nous aider à vivre notre foi ici et maintenant, avec courage et avec fidélité. Alors, je vous encourage à l'action ce matin. Vous avez trouvé sur votre chaise, vous êtes peut-être assis dessus, une feuille qui est titrée « Mon engagement de vie à contre-courant ». Je vous invite à réfléchir à cela. Alors, il est précisé que ce texte n'est pas un appel révolutionnaire ou anti-gouvernemental, mais une invitation à vivre pour Dieu en unité avec les chrétiens persécutés. Non, c'est pas ça? Je sous-signais, et Porte Ouverte nous encourage à nous engager devant le Seigneur. Je reconnais qu'en tant qu'enfant de Dieu, le fait de vivre à contre-courant est la conséquence du mandat de l'Évangile. Le grand ordre de mission du Christ exige de nous de ne pas suivre les préceptes de ce monde, mais de témoigner d'un autre monde, celui du royaume de Dieu. En tant que chrétien ou en tant que chrétienne, je m'engage à vivre ouvertement ma foi, malgré les attentes et les opinions de ceux qui m'entourent. Je resterai attaché à Christ, tout en comptant sur sa grâce, même si des difficultés apparaissent. Ma vie doit témoigner que Dieu est ma priorité et je serai intègre pour dire la vérité. Quel que soit le régime politique ou la société dans laquelle je me trouve, je continuerai à vivre à contre-courant. J'obéirai à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quoi qu'il arrive, je suis prêt, je suis prête à me soumettre au plan de Dieu, car ses plans sont toujours bienveillants et bons. On vous propose de dater et de signer. Remplissez cela devant le Seigneur. Il n'y a aucun contrôle sur ce que vous faites. C'est entre le Seigneur et vous. On a dit qu'on peut aussi prier. Et je voudrais vous proposer 5 sujets de prière. Je voudrais que pour chacun de ces sujets, l'un ou l'une d'entre nous puisse prier et on passera au sujet suivant. Le premier sujet de prière, c'est pour les chrétiens du Soudan. Ces derniers mois, des manifestations massives ont eu lieu et les informations s'en sont fait l'écho, entraînant des changements politiques et l'armée a destitué le président. Alors prions pour que la nouvelle constitution soit plus ouverte à la pluralité religieuse. Prions pour que Dieu se glorifie au travers de son Église et que les chrétiens soient moins discriminés. Qui d'entre nous veut prier pour le Soudan? Une plus grande ouverture, moins de discrimination pour l'Église et que Dieu soit glorifié. Frères, sœurs, sois notre porte-parole, prie pour le Soudan.